C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
Ici Emmanuel Macron. Voici Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Girard.
On se croirait dans une gare de la SNCF quand j'entends ça à la fin. Bonjour Christophe Girard ou bonsoir chez toi. Bonsoir. Ça va bien?
Ça va et toi?
Oui, ça va. On a passé il y a quelques jours, hein, c'était le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, une journée de célébration mais aussi de revendication. Le Conseil de l'Europe vient d'ailleurs de publier un message assez direct sur la place des femmes en politique. C'est encore si précaire que ça?
Eh oui, Denis. En fait, le Conseil glacial, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, nous rappelle qu'en Europe, la proportion des femmes dans les assemblées locales peine souvent à atteindre 40% et chute parfois à 15%. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on prend des décisions vitales au niveau local, mais on se passe de la moitié de l'expertise de la population. Le thème de 2026, c'était droit, justice, action pour toutes les femmes. Et le mot le plus important dans cette phrase, c'est bien toutes.
Ouais, ben justement, dans cette émission, on parle, hein, d'intersectionnalité. Est-ce que les femmes LGBTQIA+ sont oubliées dans les statistiques?
Absolument, et c'est là que le bât blesse, hein, puisqu'on parle d'inégalité salariale ou de violence sexiste, on oublie trop souvent que quand une femme est lesbienne, bisexuelle ou trans, ben c'est la double, voire la triple peine. En plus du plafond de verre lié au genre, elles se prennent de plein fouet des discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, même si en Europe, et je pense que c'est le cas dans le monde entier, hein, elles restent statistiquement plus vulnérables aux violences physiques et professionnelles que leurs sœurs hétérosexuelles.
Voilà, oui, c'est une triste réalité. Alors, on sent une fragilité des acquis. On passait certains droits gravés là, dans le marbre avec du béton solide, là. Mais les rapports internationaux semblent très alarmistes.
Parce que rien n'est jamais acquis, hein, on le sait. On voit que les reculs sur les droits fondamentaux dans plusieurs pays, pour les personnes LGBTQIA+, et pour les femmes trans, par exemple, l'accès aux soins ou à une reconnaissance administrative simple devient un champ de bataille politique. La participation, politique dont parle le Conseil de l'Europe, ce n'est pas qu'une question de chiffres, hein, c'est une question de survie. Alors, si les femmes LGBTQIA+ ne sont pas aux tables des décisions, qui va porter leur voix contre l'isolement ou les violences familiales?
Ah, je vais reprendre une phrase qui est devenue une expression qui est devenue célèbre de Mark Carney, notre premier ministre au Canada, qui a dit que quand on n'est pas à la table, c'est parce qu'on est au menu. Hein? Ouais. Alors, quel message peut-on retenir à la suite de cette journée des droits des femmes 2026? On continue le combat?
Ouais, il faut le continuer, mais pas seulement, il faut l'élargir. En fait, l'égalité ne sera réelle que le jour où elle sera réellement indivisible. On ne peut pas célébrer les droits des femmes un jour et ignorer la lesbophobie ou la transphobie le lendemain. La vitalité de nos démocraties, hein, se mesure à la place qu'on laisse aux plus vulnérables d'entre nous. Le 8 mars, c'est la journée de toutes les femmes, sans exception, sans astérisque et surtout sans condition.
Maintenant, Christophe, on a quand même une nouvelle qui nous vient de l'Ukraine. C'est assez étonnant. La Cour suprême dans ce pays a rendu un arrêt inédit concernant un couple d'hommes. On parle carrément de la reconnaissance d'une famille.
Exactement, Denis Martin, et c'est un jalon historique. Pour la première fois, la plus haute instance juridique du pays a confirmé qu'un couple de même sexe constitue une famille. Alors, l'affaire concerne Zorian Kiss, qui est, il faut le dire, premier secrétaire de l'ambassade d'Ukraine en Israël, et son partenaire, Timur Leshchuk. Alors, je ne suis pas certain de la prononciation, hein. Leur union de fait avait été reconnue par le tribunal de Kiev en 2025, et malgré l'acharnement des mouvements conservateurs, la Cour suprême vient de dire c'est une famille, point barre.
Bon, mais concrètement, là, qu'est-ce qui a déclenché cette bataille judiciaire? C'est une question de principe ou un besoin administratif?
C'est très concret en fait. Le ministère des Affaires étrangères refusait que le partenaire de Zorian l'accompagne en mission diplomatique en Israël sous prétexte qu'il n'y avait pas de cadre légal pour les unions homosexuelles. En saisissant la justice, ce diplomate n'a pas seulement demandé un droit de voyage, il a exigé que sa vie privée et ses droits fondamentaux soient respectés. En fait, la justice lui a donné raison en définissant leur vie commune comme une entité familiale.
Je peux juste imaginer les organisations conservatrices qui n'ont pas dû apprécier cette histoire-là. Est-ce qu'elles ont tenté de bloquer le processus?
Ok, oui, hein, tu peux le deviner, hein. Le mouvement VSI Razam, notamment, a fait tout pour s'y opposer au nom de la morale publique, une fois de plus, hein. Mais la Cour suprême a envoyé un message très fort. Elle a rejeté leur recours en estimant que ces organisations n'avaient aucune qualité pour s'ingérer dans la vie privée des gens. C'est une immense victoire pour l'ONG Inside et pour les militants locaux, car cela empêche désormais les lobbies anti-LGBT d'utiliser les tribunaux pour annuler les décisions favorables aux droits des communautés LGBTQIA+.
Est-ce que ça veut dire donc que le mariage pour tous, c'est pour demain en Ukraine?
Non, on ne va pas s'enthousiasmer trop vite, hein. La loi ukrainienne, pardon, continue de définir le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Ce qu'on a ici, en fait, c'est une avancée par la jurisprudence, c'est un signe notable pour l'Europe de l'Est, et ça montre notamment que l'Ukraine veut s'aligner sur les standards européens des droits humains. Mais sans une réforme législative globale, ces progrès restent fragiles. On va dire que c'est un premier verrou qui saute, mais que la porte n'est pas encore entièrement grande ouverte.
Donc, un signe d'espoir, donc, dans un contexte quand même régional difficile, là, parce qu'il y a la guerre, il y a plein d'autres choses qui se passent là.
Tout à fait, hein. C'est la preuve que même quand la loi traîne les pieds, bah, la justice peut être un rempart pour protéger la dignité des personnes LGBTQIA+. Zorian et Timur ne sont plus seulement des colocataires aux yeux de l'État, ils deviennent une vraie famille, ils sont une vraie famille, et ça, Denis Martin, dans cette partie du monde, bah, c'est une révolution silencieuse.
Alors, Christophe, les élections municipales françaises 2026 sont maintenant derrière nous. Il y a des nouveaux conseils municipaux qui s'installent partout. Durant cette campagne, l'index de l'engagement LGBTQIA+ de la Fondation Jean Jaurès avait tiré la sonnette d'alarme sur le manque de concret dans les programmes. Maintenant que les maires et les mairesses et tout le monde est élu, on fait quoi?
Il faut passer de la parole aux actes. Pendant des mois, on a entendu des intentions. 59% des candidats nous disaient que la mairie était l'échelon de proximité idéal pour l'inclusion. Très bien, mais maintenant que les écharpes tricolores sont en place, il faut vérifier si l'inclusion se limite à un drapeau arc-en-ciel sur le fronton de la mairie en juin pendant les fiertés, ou si on va enfin voir des politiques publiques sérieuses.
Alors, l'étude montrait des clivages marqués, notamment sur la sécurité et l'accès aux droits. Qu'est-ce qu'on doit surveiller en priorité là, pour les 100 premiers jours des nouvelles administrations municipales?
On doit surveiller tout d'abord les budgets, hein, parce que c'est le nerf de la guerre. On nous a promis de la sécurité, alors est-ce que les polices municipales vont être réellement formées pour accueillir les victimes de crimes de haine, hein, sans les EG? À gauche, on nous a parlé plus de transformation de services publics. Est-ce qu'on va voir des référents LGBTQIA+ dans toutes les mairies d'arrondissement dans les grandes villes? L'étude montrait que seulement 2 listes sur 10 prévoyaient en fait un élu dédié. Alors si le maire fraîchement élu n'en a pas nommé pour l'instant, c'est un mauvais signal envoyé.
Ce qui est frappant dans tout ça, ce sont ce qu'on appelle non, les angles morts des programmes, notamment sur les personnes âgées et les personnes trans, les personnes âgées queer et les personnes trans. Est-ce que le fait d'être élu ou réélu, ça change la donne?
En tout cas, c'est un point sur lequel on va les attendre. On a vu que les lesbiennes, notamment, étaient quasiment absentes des débats, tout comme les seniors LGBTQIA+, qui font face à un isolement terrible. Les nouveaux maires doivent comprendre que gérer une ville, c'est aussi s'occuper de celles qui sont invisibles. L'étude révélait qu'un tiers des listes de droite ne nommait même pas les personnes trans. Alors, si ces listes ont gagné, le rôle des associations locales va être de leur rappeler que les citoyens citoyennes existent et qu'elles votent elles aussi.
Et on a vu, surprise générale, on a vu que le Rassemblement national avait fait le choix du silence total durant l'étude de l'index dans les villes où ils ont pu s'imposer l'inquiétude. Donc, c'est légitime, là.
Elle est plus que légitime, hein, on va dire, elle est structurelle. En fait, le silence, c'est un programme en soi. Là où l'extrême droite s'installe, les politiques locales deviennent souvent un rempart ou un couperet. Il faudra vérifier là aussi si les subventions au centre LGBTQIA+ continuent, si les budgets tombent, ce qui est souvent le cas, hein, dans les municipalités gérées par le RN. C'est toute une chaîne de solidarité, de santé et de sécurité qui s'effondre.
Alors, ton dernier mot ou ton mot de la fin pour cette rentrée municipale?
C'est qu'on veut plus que de la bonne volonté, hein. On veut des politiques émancipatrices, comme le disait le rapport. La lune de miel est terminée, les maires sont en place maintenant et aux responsabilités, à eux de protéger tous les administrés. On le disait tout à l'heure, hein, le 8 mars, c'est une journée de lutte. Ben, les municipales, c'est une étape, hein, mais l'égalité, elle se construit chaque matin, au guichet de la mairie. Et c'est pour ça qu'il faut garder les yeux rivés sur eux.
Bien, on va continuer avec une note quand même sombre. La France, qui était jusqu'ici le deuxième contributeur mondial de la lutte contre le sida, vient d'annoncer une réduction massive de son aide. On parle de quel chiffre là exactement?
Ben, les chiffres sont vertigineux, Denis Martin. On parle d'une baisse de 58%. On passe de 1,6 milliard d'euros pour la période précédente à seulement 660 millions pour la période 2026-2028. C'est quasiment 1 milliard d'euros qui s'évapore. Alors, l'État évoque des finances publiques en difficulté, mais le résultat est là, hein. Après les États-Unis de Trump, ben, c'est la France qui abandonne le navire.
Là, si on me permet, le Canada n'est pas en reste parce qu'en novembre 2025, le gouvernement de Mark Carney a coupé de 17% sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, une coupe de 190 millions de dollars. Bon, à peu près quoi, 110, 120 millions d'euros, mais quand même. Contribution qui sera désormais donc de 1,02 milliard de dollars pour les 3 prochaines années. Alors, avec les coupes massives annoncées par Trump, c'est un coup terrible pour le Fonds mondial. On estime donc qu'on va avoir sauvé 70 millions de vies en 25 ans avec ce qu'on avait comme financement avant. Alors, ça va être quoi l'impact concret sur le terrain?
Ben, l'impact, il est essentiellement humain, hein. Derrière les lignes budgétaires, il y a des vies. Des ONG comme Médecins du Monde tirent déjà la sonnette d'alarme. Des programmes de lutte contre le VIH, mais aussi contre la tuberculose, vont s'arrêter du jour au lendemain. On ne parle pas de confort, là, hein. On parle de traitements antirétroviraux, de prévention et de survie. En coupant des budgets, ben, on condamne mathématiquement des milliers de personnes, souvent les plus précaires et les plus marginalisées dans nos communautés à travers le monde.
Puis j'ajouterais aussi que c'est vraiment pas avoir une vision à long terme parce que les virus, les maladies comme ça, si on n'aide pas à contrôler ailleurs dans le monde, bien, elles reviennent par la porte arrière ici dans les pays de l'Occident. Alors, on ne s'aide pas non plus quand on fait ça. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plein d'experts qui parlent de ces situations-là. Christophe, on parle pas juste, c'est pas la seule coupe, hein, parce que l'aide publique au développement, l'APD, vous appelez ça en France, dans son ensemble,
Fait.
est rabotée de manière drastique ou draconienne.
Oui, elle chute de 38% par rapport à 2024. C'est un signal désastreux envoyé au monde. La France se replie sur elle-même. Pour une communauté comme la nôtre, qui sait que le virus ne connaît pas de frontières, mais c'est une aberration totale. Tu le disais, hein. On ne fait pas des économies sur une pandémie, on ne fait que retarder l'échéance et on la rend plus coûteuse et plus mortelle.
Alors, Christophe, est-ce qu'on peut dire que la France perd son leadership sur les questions, son leadership moral sur ces questions-là?
Bah, elle le perd pas, mais elle le brade. On peut pas prétendre porter la voix de l'universalisme et des droits humains et couper en même temps les vivres à ceux qui soignent le monde. Ce milliard d'euros d'économies, c'est le prix du renoncement. Bah, c'est un signal d'alarme. La solidarité internationale, bah, elle est en train de devenir une variable ajustable, un comptable. Et ça, c'est vraiment tragique.
Alors, tu vas me permettre d'extrapoler parce qu'on vient de passer les élections municipales. Les prochaines grandes élections en France, ce seront les élections présidentielles.
Tout à fait.
Ça a l'air de quoi, là? Parce que je sais que c'est la fin du macronisme, mais on voit beaucoup plus là, les extrêmes se confronter. Au niveau national, en France, ça a l'air de quoi pour nos communautés?
En gros, enfin, pour le candidat, si on regarde les sondages actuels, le candidat qui arrive en tête, c'est Jordan Bardella, donc le Rassemblement national. Et en ce qui concerne nos communautés, il y a une étude qui a été faite par Têtu récemment, hein, qui dit que 27% des personnes LGBT sont prêtes à voter pour le Rassemblement national aux élections présidentielles.
Il y a des gens qui ont des
Donc
problèmes de
c'est un peu
mémoire,
inquiétant.
là.
Tout à fait, on est d'accord.
Parce que
C'est quelque chose qui est
rappelons
compréhensible.
certaines prises de position du Rassemblement national, entre autres sur les thérapies de conversion.
Tout à fait, mais sur plein de sujets, ils sont en poste, notamment au niveau européen, et ben, soit ils s'abstiennent, soit ils votent contre les thérapies de convention, et toute une série de droits, en tout cas de lois quoi, qui vont dans le sens des droits LGBTQIA+. Ce qui est à signaler, et je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps, dans une interview d'un élu du Rassemblement national, qui disait clairement, et c'est l'une des choses qu'ils mettent en avant, que le Rassemblement national, c'était sans doute le parti qui rassemblait le plus d'homosexuels dans ses rangs.
Bon, en tout cas, il y a des questions à se poser. Merci beaucoup, Christophe Gérard, qu'on rejoint en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir. À
Merci.
bientôt, Denis Martin.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Après la pause, David Gélina, un artiste, un créateur de bande dessinée et surtout quelqu'un qui n'a pas peur de chercher l'amour avec un grand A, mais qui vit aussi avec une déficience intellectuelle. On va parler aussi à Wissem Belgassem, grande vedette du foot franco-tunisien et musulman qui a fait son coming out.